That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Regardez cette image, c'est la toute première fois que vous voyez un trou noir.
Rosetta, c'est le nom de cette sonde qui termine un voyage de 10 ans. L'engin de 32 mètres d'envergure va se mettre en orbite, sans doute en fin de matinée autour d'une comète, ce qui serait une première, et la sonde tentera d'y larguer un petit robot.
La tête dans les étoiles. Votre revue de presse en astronomie, une émission préparée, réalisée et présentée par Aurélien Housset.
Le robot Curiosity s'est posé sur Mars et part à l'attaque de la planète rouge.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés en ce mois de mai 2024, et oui déjà, j'espère que vous allez bien depuis le mois dernier. Alors sachez qu'aujourd'hui, eh bien, nous allons une nouvelle fois passer une vingtaine de minutes ensemble, et sachez qu'aujourd'hui, dans notre télescope, nous allons voir la Lune, nous allons parler de la Lune à deux reprises, nous parlerons notamment des cratères lunaires, nous parlerons de Titan. Et puis nous irons observer un petit peu les trous noirs, et nous verrons qu'ils tournent bien. Et puis enfin, on se posera en fin d'émission une question qui peut être existentielle, l'expansion de l'univers. On parlera de la distance, à quelle distance voit-on l'expansion de l'univers. Mais sans plus tarder, eh bien, revenons sur Terre. On se met devant notre télescope et le premier astre que nous voyons, c'est la Lune. Clair de lune, c'est bien évidemment Debussy. J'ai une affection toute particulière pour cette œuvre. Alors non, on reprend le fil de l'émission. La lune, justement, voilà, c'est bien le fil. Eh bien, la lune est-elle vraiment plus grosse à l'horizon? Vous avez peut-être déjà eu cette impression. En tout cas, personnellement, je l'ai eu. Et en fait, il faut savoir que, eh bien, non, c'est une illusion d'optique. Les mesures montrent en effet que la taille apparente de la Lune est identique, qu'elle soit proche de l'horizon ou haute dans notre ciel. Plus encore, la taille de la rétine et la région du cerveau qui traite la perception de la Lune restent en fait les mêmes dans les deux cas, assure pour Science et Vie Anne Giers de l'Université de Strasbourg. Alors quoi ? Eh bien, en fait, même si le sujet ne fait pas encore consensus, eh bien, certains spécialistes pensent que notre cerveau est trompé par les perspectives. Proche de l'horizon, la Lune se retrouve au même niveau que d'autres objets du quotidien, comme par exemple, eh bien oui, les immeubles, les arbres, etc., ce qui nous donnerait l'impression qu'elle est plus proche et donc plus grosse. Tandis que lorsqu'elle est plus haute dans le ciel, nous n'avons plus de points de repère dans cet environnement et elle nous semble plus éloignée, explique Sébastien Derrière de l'Observatoire de Strasbourg.
Je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi.
Alors, dans son édition de février dernier, Science et Vie revient toujours dans ce domaine de l'astronomie sur le mystère des cratères lunaires, mystère qui est donc percé, apparemment. Alors, on le sait, certains cratères sont larges, d'autres moins, mais ils sont plus profonds. Alors, comment expliquer ces variations entre les différents types de cratères lunaires ? Eh bien, selon l'équipe du physicien Eric Franklin de l'université de Campinas, nous sommes au Brésil, eh bien, car il y a de nouvelles simulations numériques, deux paramètres sont en fait à considérer. La solidité des météorites à leur origine ainsi que leur vitesse de rotation. Alors en effet, plus un impacteur tourne rapidement sur lui-même, plus le cratère qu'il engendre est large, et ce d'autant plus que les grains qui le constituent sont faiblement liés. Or, puisque les grains s'étalent alors largement à l'horizontale, ils s'enfoncent moins profondément. Les cratères très larges sont donc peu profonds. A l'inverse, moins l'impacteur tourne vite et ou plus les grains sont fortement liés, moins le cratère est large mais il est plus profond. Alors pour aller plus loin en fait dans ce domaine, il faudrait maintenant inclure les effets de l'impact sur le régolithe lunaire qui peut fondre voire s'évaporer sous la violence du choc, explique pour Science et Vie Eric Franklin.
Thank you.
Chers amis, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission « La tête dans les étoiles » et c'était un morceau signé par Marie Lattimore, publié en 2020. Alors comme annoncé, je vais à présent vous parler de Titan. On s'éloigne un petit peu, hein, bien évidemment, de notre planète Titan. Titan, bien évidemment, c'est une lune. Alors, on en parle de temps en temps dans cette émission. Titan est aussi appelé Saturne 6, c'est en fait le plus grand satellite naturel de Saturne et qui a un diamètre de près de 6% plus grand que celui de Mercure qui est une planète. Donc Titan est un satellite naturel comme l'est notre Lune dont nous venons de parler, mais qui est plus gros que la planète Mercure. Titan est par la taille au deuxième rang des satellites du système solaire et oui, après Ganymède, le plus gros satellite de Jupiter. Alors, il s'agit aussi, Titan, du seul satellite connu à posséder une atmosphère dense. Et il a été découvert par l'astronome néerlandais, il faut le savoir, Christian Huygens. Et c'était en 1655. C'est la première lune observée autour de la planète Saturne. Alors, science et vie, voilà pour ces informations générales, on va dire ça comme ça. Voilà pour cette carte générale de Titan. Alors, Titan, eh bien, a une actualité. Des icebergs flottent sur Titan. Et c'est ce que nous apprend donc Science et Vie dans son édition de mars dernier. Alors, en effet, est-ce qu'on aurait percé le mystère des fameuses îles magiques à la surface des lacs de Titan ? Car oui, Titan, je ne l'ai pas dit, mais possède de l'eau. Et oui, certains chercheurs suggèrent même qu'il existe un océan souterrain qui pourrait probablement servir d'environnement favorable à la vie. Bon, là, ce sont des suppositions, mais quoi qu'il en soit, oui, il y a de l'eau. Donc, je reviens à cet article. A-t-on percé le mystère des îles magiques à la surface des lacs de Titan ? Eh bien, celui-ci tracasse les astronomes depuis que la sonde Cassini a survolé cette lune de Saturne. C'était il y a longtemps, c'était entre 2004 et 2017. Alors, elle avait dévoilé à l'époque pour la première fois des lacs qui s'étendent au pôle. Ces étendues d'hydrocarbures, méthane et éthane, et oui, là, c'est pas de l'eau, de quelques centaines de kilomètres de diamètre, paraissaient étrangement lisses. Mais la surface deux d'entre eux, eh bien, des chercheurs ont vu que cette mer d'huile, entre guillemets, semble brisée par une surbrillance sur les images radar qui persistent de quelques heures à quelques semaines. Est-ce qu'on peut parler de vagues, de dépôts solides ? Eh bien, en fait, avec son équipe, les chercheurs qui ont répondu à Science et Vie ont suspecté la présence de bulles. Et en fait, leur simulation montrait que dans une mer de méthane, d'éthane et de diazote, eh bien, des bulles de diazote pouvaient émerger puis éclater. Mais voilà qu'aujourd'hui, une équipe de l'Université du Texas propose une autre explication. Dans l'atmosphère de Titan, des molécules organiques complexes apparaissent à la suite de réactions photochimiques et puis retombent sur la surface. Au niveau des lacs, certaines pourraient s'agglomérer sous la forme d'icebergs, pour eux comme de la pierre ponce en fait. Puis au fil du temps, le méthane liquide s'infiltrerait en eux jusqu'à les faire sombrer et faire carrément disparaître des radars.
Is your dickless cousin, brother, father, pet, friend, has been a wife, a lavender scent. A bone orchard of hearts seems to surround you as you stare. Each gift horse straight in the mouth, stare my arrow down. I was invited, I was called out to watch you frolic and dance. Oh, I buried my head in my hands, I buried my procured in John. I was ferociously put upon until it was clear I should not keep on. I'll just creep on, creeping on. Yes, I will. I'll not keep on. I'll just creep on. Your bed and move her hair onto my chest, exposing a neck, and I tear through a twin to my arms, and my stomach dropped as you shifted me off to stop the ectoplasm coil like a hovering halo of smoke. And our beloved invention is conjured each night in your throat. Oh, I buried my head in my hands. I buried my heart there in the sand. I was caught, locked, and charmed. I was ferociously put upon until it was clear I should not. I'll just creep on, creeping on. Yes, I will. I'll not keep on. I'll just creep on, creeping on. Or do I try one more time? No, I'll not keep on. I'll just creep on.
Dans les étoiles, Aurélien, pour vous accompagner durant les quelques minutes encore. Voilà, c'était donc Creep on Creeping On de Timber Timbre, un morceau sorti en 2011. Alors, est-ce qu'en 2011 on savait que les trous noirs tournaient aussi? Eh bien, je ne pense pas, puisque c'est une information, une actualité, une découverte, que dis-je, révélée par Science et Vie, et c'était à la fin de l'année dernière. Donc oui, les trous noirs tournent bien. Albert Einstein l'avait prédit dans sa fameuse théorie de la relativité générale, certains trous noirs tournent sur eux-mêmes, comme bien notre bonne planète Terre par exemple, ou la Lune. Alors reste que comme ces monstres cosmiques sont optiquement invisibles, car vous savez qu'ils aspirent la lumière, eh bien le phénomène n'avait jamais été prouvé par l'observation. C'est enfin chose faite, et notamment avec le trou noir supermassif de M87. Donc c'est chose faite grâce à une équipe internationale qui a pu eh bien, le capter à l'aide du télescope Event Horizon. Alors les astrophysiciens ont analysé 20 ans d'observation du trou noir supermassif situé donc au centre de cette galaxie M87. C'est donc pas chez nous. Alors celui-ci est entouré d'un disque d'accrétion composé de matière chauffée à des températures extrêmes et dont une partie est recrachée eh bien, sous forme de jet à une vitesse proche de celle de la lumière. Waouh ! Alors hors l'axe du jet de M87 change d'environ 10 degrés tous les 11 ans, comme une toupie qui vacille en fait sur son axe. Je pense que vous avez l'image en tête. Alors, du fait de sa rotation et de sa force gravitationnelle, le trou noir occasionne un effet dit de précession qui courbe et tord l'espace-temps, explique pour Science et Vie l'astrophysicien Yuzhu Cui de l'université Jiangtan de Shanghai en Chine. Et bien, en fait, c'est ce qui entraîne et modifie l'axe du jet. Une caractéristique que les trous noirs acquièrent dès leur naissance, décrit Éric Gourgoulon de l'Observatoire de Paris. En s'effondrant soudainement vers l'intérieur et en absorbant toujours plus de matière, eh bien, il accroît sa vitesse de rotation. En fait, comme un patineur tourne plus vite sur lui-même en ramenant les bras sur son corps. Chers amis, sans transition pour terminer cette émission, je ne sais pas ce que vous pensez de l'expansion de l'univers. Personnellement, c'est une question qui m'intrigue. J'ai un peu du mal à avoir cette perception-là, notamment celle aussi de l'infini et de l'extension de l'univers. L'expansion de l'univers, mais dans quoi ? Mais, chers amis, ici, dans la tête, dans les étoiles, je ne suis pas là pour parler de moi et de mes perceptions. Non. Mais en tout cas, c'est une réponse à laquelle répond Science et Vie. À quelle distance voit-on l'expansion de l'univers ? Eh bien, en fait, il faut savoir qu'il est impossible de donner un chiffre précis. Pour l'instant, les galaxies les plus proches de nous et que l'on voit s'éloigner se trouvent à quelques dizaines de millions d'années-lumière. Donc, c'est pas trop la porte à côté. Alors, pourquoi aussi loin ? Parce que, malgré l'expansion indéniable du cosmos, le fait que le vide entre les astres s'étend à une vitesse d'environ 70 km SMPC, tous les corps ne s'éloignent pas de la Terre. En réalité, pour observer ce phénomène, il faut suivre un astre en dehors de notre influence gravitationnelle. Sinon, celle-ci compense l'expansion et retient l'objet céleste. Au sein de systèmes planétaires, par exemple, eh bien, les corps subissent les forces d'attraction d'un objet central massif, comme par exemple la Terre avec le Soleil. C'est pour cela que les distances qui nous séparent d'objets relativement proches, comme le Soleil ou la Lune ou les autres planètes de notre système, ne semblent pas être impactées. Alors il faut raisonner à plus large échelle. Et à plus large échelle, c'est tous les systèmes gravitants qui ne sont pas influencés par l'expansion de l'univers. Les amas globulaires, les galaxies, les amas de galaxies, aucun ne grandit. Chacun est comme un point sur un espace-temps qui, lui, s'étend, confirme le chercheur Yannick Mélier pour Science et Vie. Alors concernant la Terre, elle fait partie de notre galaxie, donc bien évidemment, fait partie de la Voie lactée, elle-même située à la périphérie d'un super amas bien plus vaste, grand d'environ 200 millions d'années-lumière, celui de la Vierge. Comme nous ne connaissons pas l'influence gravitationnelle de ce dernier, donc de ce superamas, eh bien il est impossible de déterminer mathématiquement la distance minimale à laquelle l'expansion de l'univers est observable depuis notre planète. Chers amis, c'est sur cette information que se referme ce numéro de votre émission « La tête dans les étoiles » en ce mois de mai. J'espère que ce numéro vous a plu, je vous remercie pour votre fidélité. Sachez que nous nous retrouverons le mois prochain, même station, station radiophonique, station spatiale. Vous savez qu'ici, tout se mélange un petit peu. Même heure, bien évidemment, et ce sera, et oui déjà, le dernier numéro de cette saison. D'ici le mois prochain, prenez soin de vous, profitez de la vie, profitez de ce mois de mai, et puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut! C'était La Tête dans les étoiles, une émission préparée et présentée par Aurélien Hossé.